trouvais qu'il y avait vraiment des chants qui étaient beaux, profonds, encourageants, qui nous rejoignaient. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous n'avez pas l'air enthousiaste. Moi, j'aurais envie de vous applaudir. Je ne sais pas, je vais être tout seul, mais bravo. C'est vrai, c'est important pour être conduit dans la louange. J'ai beaucoup de plaisir à être là. Je viens de temps en temps jeter un petit coup d'œil, voir s'ils tiennent le coup, les deux jeunes. Ça a l'air, ils sont rayonnants, ils ont l'air heureux. Et ça fait plaisir. J'aimerais partager avec vous ce matin quelque chose qui m'a beaucoup rejoint ces derniers mois, qui continue de travailler dans mon cœur. Et c'est un récit qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Et comme vous êtes des érudits dans la parole ici, je pense que c'est des textes qui vous disent quelque chose. C'est quand l'Évangile va pouvoir pénétrer en Europe. À un moment donné, il y a des voyages missionnaires qui s'accomplissent. Il y a un premier voyage, voilà, qui se passe en Asie mineure. Puis un deuxième voyage où l'Évangile va entrer en Europe. Vous savez tous que c'est par où que l'Évangile est entré en Europe. Philippe. Voilà. La Macédoine, Philippe. C'est la Grèce, le début de la Grèce, là, juste à l'ouest de la Turquie. Vous saviez ça, n'est-ce pas? C'est bien. Alors, j'aimerais vous parler de tout ce chapitre 16 du livre des Actes. Mais je prends le pari que c'est un texte que vous connaissez, des chapitres que vous connaissez, avec ce qui se passe à Philippe, là où il y a une rencontre avec une marchande de pourpre, Lydie. Après, il y a une jeune femme qui a un esprit de divination, qui est esclave de ses maîtres, qui l'exploite. Et puis après, les apôtres sont arrêtés, ils sont mis en prison, puis le geôlier va se convertir. Ça vous dit quelque chose, ça, quand même? Bon. C'est bien. Alors, il y a surtout deux versets que je ne vais pas lire, mais que je vais vous raconter. Je prends le risque, je ne les dise pas tout à fait comme c'est dans la parole, mais je pense que le sens y est. C'est deux versets qui m'ont beaucoup touché. On voit que, d'une manière injuste, les apôtres, il y a une petite équipe, là, c'est surtout Paul et Silas qui sont, la circonstance, arrêtés, mis en prison. C'est totalement injuste, c'est suite à la libération de cette jeune esclave qui avait un esprit de divination que cela s'est produit. Et les apôtres sont mis dans un cachot très profond, ils ont des entraves aux pieds. Et puis vers le milieu de la nuit, il nous est dit qu'ils chantaient, ils louaient Dieu et ils priaient. Et de sorte que tous les prisonniers les entendaient. Puis à un moment donné, c'est un peu comme à Jéricho, il y a un tremblement de terre, et là les murs vont s'écrouler, les chaînes des prisonniers vont être brisées. Puis là, il y aura encore toute une série de choses étonnantes, notamment le fait que les prisonniers ne vont pas vite profiter de ça pour s'en aller, ils vont rester sur place. Puis le geôlier va être bouleversé, il voudra se retirer la vie, et puis Paul et Silas vont... aussi, qui étaient restés, vont lui dire « Mais non, ne fais pas ça, mon ami, ne fais pas ça. » Et ils vont lui annoncer l'Évangile. Alors, ce qui me touche beaucoup, bien sûr, dans ce récit, ce qui m'a interpellé surtout, c'est cette dimension d'être comme ça au sein de l'épreuve et puis de pouvoir louer Dieu, de pouvoir le chanter. Ça me bouleverse d'autant plus que vous vous souvenez que plus tard, Paul, quand il écrit aux Philippiens, il leur dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et au reste, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, vertueux, qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Est-ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi? Est-ce que vous avez vu en moi? Mettez-le en pratique. Waouh! Je me dis, mais comment est-ce que cette église a pu recevoir ces paroles? Mais c'était... Ils avaient vu Paul au milieu d'eux vivre cela. Ce n'était pas juste comme ça, un prêchi-prêcha. C'était, ça correspondait à une incarnation, à une réalité époustouflante. Et je me dis, mais cette église, quand elle a reçu cette lettre, elle devait être vraiment interpellée de la bonne manière, encouragée, stimulée, en disant, mais ils ne nous racontent pas des bobards, c'est du vécu. Et ça, je trouve que c'est tellement puissant quand c'est le cas. Donc voilà. C'est un peu un constat comme global que je fais avec ce texte. Vraiment, moi, j'étais très, très, très fortifié en lisant cela, en même temps interpellé en me disant, mais dans mes circonstances, dans tout ce qui peut arriver, est-ce que j'arrive à avoir cette attitude? Ben, c'est facile de le mesurer. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes venu ce matin. Peut-être dans la joie, et tant mieux, alléluia. Peut-être avec des gros fardeaux en me disant, mais comment je vais m'en sortir? Et dans mes circonstances, dans nos circonstances, est-ce qu'on arrive à activer ces ressources que Dieu met à nos dispositions, la louange, la prière? C'est dans ce sens aussi que, m'étant préparé à vous partager ceci, j'ai apprécié particulièrement la louange ce matin, parce que je trouve qu'au niveau des paroles qui étaient là, de son contenu, ça, c'était percutant. Voilà. Le deuxième élément que je vous partage, qui fait suite à cela, c'est que, voilà, depuis quelques mois, j'ai été, pour toutes sortes de raisons, plus au contact avec la réalité de l'Église persécutée dans le monde. J'ai lu beaucoup de choses à ce sujet. Et, en particulier, j'ai vu que ce texte, Actes 16, 25, 26, Paul et Silas qui louent Dieu en prison, qui prient, c'est un verset phare. Un verset lumière, un verset clé dans la vie de beaucoup de chrétiens qui sont sous un régime de persécution violente et qui sont, pour prix de leur foi, emprisonnés. Et j'aimerais vous donner deux ou trois témoignages que j'ai tirés d'un livre, peut-être vous connaissez, Les liens de la liberté, c'est Portes ouvertes qui a édité cela. Ce sont des livres de méditation. Chaque jour, il y a un texte biblique est proposé, et puis des partages, parfois des témoignages, parfois pas. Mais j'ai lu que, justement, des personnes avaient, dans leurs circonstances, bénéficier de ces éclairages à partir de la parole. Alors, un premier témoignage que je vous livre, c'est l'histoire d'un homme qui vient des Philippines et qui était en Arabie Saoudite. Vous savez que c'est un pays où c'est très difficile d'être chrétien et de témoigner. Et cet homme l'a fait, à ses risques et périls, et il était emprisonné. Et après 70 jours de prison, il savait qu'il allait être pendu le lendemain. Donc, il a écrit une lettre à sa femme, prendre congé d'elle, lui dire combien elle l'aimait. Et puis, avec son co-détenu, qui était aussi chrétien, ils ont commencé à prier. Ils sont souvenus de ce texte, de Actes 16. Et depuis 11 heures le soir jusqu'à 10 heures le lendemain matin, ils ont prié. Et puis ils ont dit, mais Seigneur, si tu nous reprends la vie, comme ça semble être le cas, eh bien, Jésus sera glorifié. Et si tu nous laisses la vie, qui est une libération, Jésus sera glorifié de toute manière. Et puis le lendemain matin, après tout ce temps de prière, ils ont arrêté de prier, et puis une demi-heure après, on est venu leur annoncer que, enfin lui, cet homme qui avait commencé à prier, on lui a annoncé ce Philippin qu'il était libéré, et il a pu prendre l'avion, il a pu retourner dans son pays. Donc, c'est vrai que quand je lis des textes comme ça, je ne sais pas comment vous réagissez, moi, ça me touche au plus profond de moi-même de voir que Dieu reste toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut agir bien au-delà de tout ce qu'on peut penser et imaginer. Un autre exemple, là, en Ouganda, quand il y avait ce régime avec Emin Dada, qui était épouvantable, où les chrétiens aussi étaient très malmenés, un pasteur pentecôtiste qui avait vu dans son ministère beaucoup de gens être guéris, d'être restaurés, etc., une église qui grandissait, a été arrêté et mis en prison. Et là, il a fait cette prière à Dieu du fond de sa cellule. Il a dit, Seigneur, au secours, j'ai peur. J'ai pas peur de mourir, mais c'est parce que je sais qu'en Ouganda, parfois, les prisonniers sont mis à mort à coups de marteau. Alors je t'en supplie, si c'est le cas, eh bien, permets que le premier coup de marteau soit décisif. Pas très gai comme prière, hein ? Voilà. Et puis, dans sa cellule, il dit, avoir vécu cette expérience très particulière, très forte, il y a comme une lumière qui est apparue dans sa cellule. Et il a entendu une voix qui lui disait, « Tu n'es pas seul, je suis avec toi pour toujours. Ne crains pas. » Et à ce moment-là, alors, il s'est mis à genoux dans sa cellule, il a commencé à louer Dieu. Et il dit, « J'ai peut-être été pas très adroit, j'ai dû louer Dieu trop fort. » Trouvait-il qu'il y a deux policiers qui sont venus, ils l'ont tiré dehors de la cellule. Et puis lui, malgré tout, il continuait de louer Dieu. Et les deux policiers l'ont amené devant un officier de police qui a constaté ça, qui a dit aux deux policiers, a dit, mais il est devenu complètement fou, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec un type comme ça en prison? Mettez-le dehors. C'est magnifique, hein? J'avais lu aussi dans un feuillet de calendrier il y a quelques temps qu'en 2014, il y avait un enfant aux États-Unis qui avait été enlevé devant sa maison, un enfant de 9 ans. Son kidnappeur l'a mis dans la voiture et il est parti. Et ce garçon, qui était chrétien, la seule chose qui lui est venue à l'esprit, à part sa peur, c'est de louer Dieu. Il avait un chant de louange qu'il aimait beaucoup et il a commencé à chanter ce chant de louange. Et puis son kidnappeur lui a dit, « Mais tu te tais maintenant, tais-toi, arrête !» Le gamin, il a continué. Et au fur et à mesure qu'il chantait, sa peur diminuait. Et finalement, après 3 heures de cette sérénade, on peut dire improvisée, et que son agresseur ne supportait pas, il arrêtait la voiture, il l'a fichu dehors. Il ne supportait plus ça. Donc on voit que voilà, la louange, je peux dire, ce n'est pas une recette. Hein, ce n'est pas une recette. Mais à travers la louange, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Maintenant, j'ai vu aussi que dans ce bouquin, là, il y avait des témoignages aussi, un peu différents. C'est-à-dire qu'ils disaient, ben voilà, le Seigneur peut, et ils ont manifesté leur foi pour dire le Seigneur, on le sait, peut nous libérer comme il l'a fait pour Paul et Silas en prison. Mais ce n'est pas forcément le cas, ce n'est pas obligatoire. Et ça rejoint le texte d'Hébreu 11 qui montre que il y a parfois des prophètes, par exemple, qui ont passé à travers le feu, qui ont été délivrés d'une manière extraordinaire, et puis d'autres, il semble que rien ne s'est passé. Ça, c'est les mystères des chemins de Dieu. Et j'aimerais vous livrer un témoignage, un ou deux témoignages. Un au Mozambique, d'un chrétien qui a été emprisonné très très longtemps. Et c'est très, très difficile pour lui. Mais à un moment donné, il était conduit dans une prison, dans une cellule où il y avait beaucoup de prisonniers qui étaient là, mais ces gens étaient sales, ils étaient pathétiques, ils avaient l'air tellement tristes, évidemment, etc., tellement découragés. Et puis, cet homme, dans le fond, est devenu leur compagnon de route. Et on a commencé à lui dire, « Mais pourquoi tu es là ?» Et il a dit, ben voilà, c'est à cause de l'évangile, c'est parce que je suis croyant en Jésus, il a commencé à témoigner. Et puis, finalement, il a réalisé que Dieu l'avait placé là pour être témoin auprès de ses prisonniers. Et certes, humainement parlant, il aurait voulu être libéré, mais il a fait ce choix de dire, mais finalement, Seigneur, je crois que ma place, elle est ici, en tout cas pour l'instant. Et il a dit, il y avait deux chrétiens rétrogrades qui avaient abandonné la foi en prison, qui ont été interpellés par son témoignage, qui dans les larmes se sont repentis d'avoir abandonné Christ et sont revenus au Seigneur. Il y en a d'autres qui sont venus à la fois au fil des jours et des semaines dans cette cellule. Et puis, cette atmosphère qui était tellement délétère, qui était pesante, s'est transformée. Ce qui fait qu'il y a des gardiens qui venaient dans cette cellule, qui voyaient qu'ils disaient « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il y a deux gardiens qui se sont convertis. Je trouvais que c'était aussi très important qu'on entende ce genre de témoignages, qui sont en relation aussi avec notre consécration à Christ, finalement, avec notre confiance que c'est lui qui conduit toutes choses dans nos vies, qu'il est souverain. Malgré tout ce que le diable voudrait essayer de faire pour nous décourager, nous déstabiliser, Dieu reste souverain. Puis un dernier témoignage beaucoup plus bref, c'est un chrétien en Roumanie qui aussi, lui, n'a pas été libéré. Il a fait référence à Acte 16, mais il n'a pas été libéré. Mais en prison, comme il aimait bien la musique, il était compositeur, à travers ses années de prison, il a composé 600 cantiques qui lui ont entretenu sa foi, qui lui ont permis de tenir le coup. Et quand il a été libéré de prison, ces 600 cantiques, ils en ont fait un psautier, enfin un recueil de chants pour l'église de Roumanie. Et ce recueil de chants a été utilisé par des milliers et des milliers de chrétiens en Roumanie. Voilà quelques éléments qui, j'espère, peuvent aussi nous rejoindre, nous fortifier, nous interpeller. On n'aimerait pas être en prison, on n'aimerait pas être emprisonné, peut-être à cause de notre foi, certainement pas, mais en fait, c'est la dernière phase dans laquelle j'aime bien aussi réfléchir par rapport à ce texte. C'est de se dire, tiens, les prisons, quand on parle de prison, est-ce que c'est forcément une prison matérielle, physique, où on est en prison parce qu'on a commis un délit ou à cause de notre foi, ou bien est-ce qu'il y a d'autres prisons qui sont là dans nos vies. Et je pense qu'il y en a effectivement beaucoup. Je pense à cette femme que je connais à Nyon, qui était vraiment dans la drogue, hein, dans des dépendances à un niveau très très élevé, qui à un moment donné est venue au Seigneur. Et quand j'ai partagé ce texte dans un groupe que j'anime une fois par mois à Nyon, j'ai demandé aux gens qui étaient là, mais finalement, est-ce que ce texte vous parle ? Et j'étais très touché parce que la plupart ont dit tout de suite, oui, ça nous parle, ce texte nous parle, ces versets nous parlent. J'ai dit, ah bon, et comment, pourquoi est-ce que ça vous parle ? Et justement, cette jeune femme, enfin, elle a une quarantaine d'années maintenant, ce qui est jeune, pour moi en tout cas, a dit, ben voilà, quand j'ai sorti de la drogue, mais j'ai eu beaucoup de combats, il y a eu des rechutes. Et à un moment donné, dans ces rechutes, je me suis mis à genoux dans mon salon et j'ai crié à Dieu, j'ai pleuré devant le Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, tu vois dans quelle prison je suis encore parfois à cause de la drogue, de cette dépendance. Et je t'en supplie, comme tu as libéré Paul et Silas à Philippe et qu'il y a eu un tremblement de terre, libère-moi de mes chaînes. Elle dit, le Seigneur m'a donné une paix, m'a donné une force pour pouvoir vivre une nouvelle étape. Et je pense à beaucoup d'autres situations, notamment d'abus, au plan de la sexualité ou comme ça, de personnes qui ont eu besoin d'être restaurées. Mais je me dis que peut-être parmi nous ce matin, il y a peut-être des personnes à qui ce texte, ces versets d'Acte 16 ont parlé dans votre existence. Vous a peut-être arrêté en cours de route pour vous ouvrir une porte d'espérance dans des combats particuliers, dans des prisons morales, spirituelles qui étaient là. Je ne sais pas si c'est le cas. Si c'est le cas, vous serez d'accord de lever juste la main comme ça. Je fais un petit sondage comme ça. Il y en a à qui ce texte d'Acte 16 a parlé. D'accord. Il y a au moins une personne. Les autres n'ont peut-être pas eu le temps de vraiment intégrer ça, peu importe. Je ne sais pas si... Si Jean-Ga, tu aurais envie de dire un mot de témoignage par rapport à ça ? Ben alors viens. Ça m'intéresse parce que ça m'enrichit aussi de voir de quelle manière le Seigneur peut tu vas au micro là-haut, tu es d'accord? Oui. Merci beaucoup. Si ça n'avait pas été toi, je t'aurais pas violenté comme ça. Mais j'ai bien fait. Et merci d'avoir eu cette liberté. Alors ça nous fait réfléchir tout ça. Donc moi ça me fait réfléchir. J'ai eu le privilège, j'ai été pasteur en France pendant 8 ans, et puis j'ai parfois pu accompagner ceux qui connaissent Gérard Payon dans les prisons en France. Et d'abord je me disais, il est fou, parce que je me souviens d'une prison en particulier à Toulouse, où normalement c'est... Théoriquement, les gardiens doivent aller vers les prisonniers, leur demander s'ils veulent venir assister à une rencontre avec un évangéliste. Mais ce matin-là, en tout cas, ce n'était pas le cas. Et en tout cas, la salle était pleine. Peut-être une centaine de prisonniers, des gros bras avec des tatouages partout, etc. Puis, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Je me dis, mais moi, je regardais un petit peu où était la porte pour si jamais. Et il a commencé, il leur a dit, vous savez, Dieu vous aime. Et vous savez, Dieu ne veut pas vous dompter, il veut vous apprivoiser. Puis il a donné son témoignage, petit à petit. Au début, il y en a pas mal qui rigolaient, qui n'écoutaient pas. Et plus il avançait, plus ils étaient captivés par le récit de l'évangile qu'il leur a partagé. Puis à un moment donné, il leur a dit cette parole que je n'ai jamais oubliée. Il leur a dit, vous savez qu'il y a à l'extérieur de cette prison bien des hommes et des femmes qui apparemment sont plus libres que vous, parce qu'ils ne sont pas enfermés dans un cachot. Mais en réalité, ils sont dans des murs, dans des prisons d'incrédulité, de peur, etc. Il a donné toute une liste. Il a dit, par contre, vous en prison, en accueillant l'évangile, la puissance de l'évangile de Jésus-Christ, vous pouvez trouver une liberté que des gens à l'extérieur de cette prison n'ont pas. Alors, si vous le voulez, prenez cet évangile, il avait mis toute une pile d'évangiles au fond de la prison, prenez cet évangile qui va vous parler plus en détail de ce que Jésus peut faire dans les vies. Et à ma grande surprise, quasiment tous les prisonniers ont pris un Nouveau Testament et ont quitté la salle. Donc, finalement, ce texte me rejoint aussi par rapport à toutes ces dimensions de notre vécu. Et j'essaye de l'intégrer à mon vécu en me disant, c'est pas un truc, c'est pas une recette. Mais il y a une puissance qui me dépasse dans la louange. Quand elle est vécue d'une manière qui est judicieuse, qui est selon ce que Dieu voudrait, c'est-à-dire finalement c'est un abandon à la confiance que Dieu, malgré tout ce qu'on peut voir, qui humainement nous semble tellement lourd, tellement difficile, menaçant. Et je pense bien que toute notre société actuellement, elle commence à être sous un joug, je ne sais pas si vous réalisez cela, à travers toutes les informations qui nous viennent de toutes les parties du monde. Il y a vraiment un joug qui vient sur la société, sur le monde, qui est redoutable. Alors, je crois que c'est quand même important qu'on médite ces paroles, qu'on y réfléchisse, qu'on essaye de dire, mais Seigneur, est-ce qu'il y aurait quelque chose à me dire? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à me dire? Alors, est-ce que le Seigneur nous parle à travers ça? Je pense à Saul de Tarse, quand il était sur le chemin de Damas pour persécuter les chrétiens, il était dans cette prison intérieure. Il était complètement aveuglé sur lui-même. Des esprits religieux l'empêchaient de voir la nécessité d'un salut par la foi en Jésus-Christ. Il était un bon pharisien, il respectait toutes les lois possibles que le judaïsme avait instaurées, mais il n'était pas du tout libre. Cette femme... Justement, cette jeune femme avec un esprit divination, apparemment, elle était libre, elle pouvait vaquer là où bon lui semblait, dans cette ville de Philippe. Mais non, elle n'était pas libre, vraiment. Elle annonçait, elle proclamait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut. » Mais Paul, il a dit, « Mais il y a un truc là, ça ne joue pas, c'est un compromis. Si cette femme, on la laisse parler comme ça, ça va, les gens vont être confus. » Parce que le Dieu que nous annonçons, ce n'est pas ce Dieu qu'elle proclame, elle. Je pense que ça a quand même fait de la publicité, que le geôlier a dû entendre à quelque part. Puis, à un moment donné, quand il voit la prison, les murs de la prison s'écrouler, il dit « Comment pourrons-nous être sauvés? Comment est-ce que je peux être sauvé ?» Mais quand même. Donc, il y a quantité de situations où on peut réfléchir à cette dimension des prisons et se dire « Mais comment est-ce que le Seigneur veut me rejoindre ?» Et là, ce texte qu'a lu Pierre-André tout à l'heure dans Colossiens 3, 16, 17, je trouve qu'il va tellement bien avec ce que je vous partage, ce que Paul a écrit aussi dans Philippiens 4, hein, que je vous ai dit tout à l'heure. « En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières, des supplications, des actions de grâce. Hein, cette paix qui peut venir de la part de Dieu. » Alors j'aimerais que nous puissions encore avoir un moment de prière maintenant, simplement. Seigneur, je crois qu'on l'a compris ce matin, il n'y a pas de copier-coller, on ne peut pas juste appliquer cette parole du livre des Actes comme une recette miracle, magique. Mais on te remercie pour ta parole qui est riche, pour ces textes, notamment des Colossiens et des Philippiens, qui donnent des compléments d'enseignement, de connaissance, de qui tu es. Merci parce que cette parole, on voit qu'elle a traversé les siècles, les âges, et qu'elle est encore vivante aujourd'hui, actuellement. Merci pour ce que tu as manifesté dans la vie aussi de notre frère tout à l'heure qui a pu expérimenter dans sa réalité même professionnelle cette dimension de l'écriture. Et tu bénis Jean-Gabriel aussi dans la foi qu'il exerce dans sa vie, Seigneur, avec sa femme Patricia dans leur foyer. Et tu nous bénis, nous aussi, Seigneur, on a besoin dans nos différentes circonstances, situations. On te prie pour tous ceux qui sont des chrétiens persécutés de manière violente, qui sont actuellement en prison, pour que tu les rejoignes aussi, tu te révèles à eux. On te demande de nous aider aussi, dans ta grâce, de nous permettre de mieux utiliser les ressources que tu mets à notre disposition dans nos combats, dans nos luttes, dans nos découragements, dans nos chagrins, nos tristesses, Seigneur, dans nos peurs, dans nos angoisses. Tu es le Dieu vivant qui veut intervenir. Je crois que ce matin, tu voudrais rejoindre certaines personnes qui parmi nous sont en proie à des grandes luttes, à des grands combats. Et que je te remets tout spécialement, que dans ce temps encore de Sainte-Seine que nous allons prendre ensemble tout à l'heure, ce soit une occasion de nous rencontrer, de rencontre avec toi, où consciemment nous disons, oui Seigneur, je veux confesser ton nom parce qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on puisse être sauvé. Et qu'on puisse vivre ce temps de scène dans cet esprit aussi de louange, d'adoration. Parce qu'encore mieux que l'apôtre Paul, Jésus, tu as incarné cette réalité d'un amour incroyable. Alors, Seigneur, oui, on te loue pour qui tu es, on te bénit pour le privilège que nous avons d'être au bénéfice de ta parole et de la découverte de cette parole vivante en Jésus-Christ. Amen. Pierre-André est par là. Je te laisse pour la Sainte Seine. Heureux de savoir que tu es là, puisque tu es de service ce matin. Tu m'as dit, si tu me vois disparaître, ce n'est pas l'enlèvement, mais c'est qu'il y a des contraintes. Tu ne m'as pas parlé d'enlèvement quand même, mais j'aime bien plaisanter aussi un peu. Sois béni dans ce temps de Seine.